Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie pour faire fructifier votre patrimoine tout en bénéficiant du rendement exceptionnel du marché financier, vous propose l'émission Club de la Presse. GTA Assurance Vie, en toute confiance.
Canal FM.
Il sonne 11h en cette journée du jeudi 13 juillet 2023. Nous vous saluons, chers et fidèles auditrices et auditeurs du Club La Presse sur Canal FM et également sur les antennes des médias partenaires de Dapaon à Nero en passant par Bassa, Sokodé, Atakpamé, en attendant que le pylône de Sama FM reprenne service à Baga, Niamtougou. Nous vous saluons également, vous citoyens du monde qui nous écoutez par le biais des médias partenaires, Radio Le Bénin et Bénin Radio ou toutes autres applications mises en ligne justement par les techniciens, le duo Vitogbe Koku Michel Tomega, secondé par Gérard Kodjo Akucha. Les confrères qui s'installent déjà l'un après l'autre au studio, le temps juste que nous découvrions cette pensée du jour qui nous apporte lumière et en même temps modestie, car le sage nous rappelle aujourd'hui que chacun de nous est porteur de points de vue, mais pas d'une vérité absolue. Encore une fois, chacun de nous est porteur de points de vue, mais pas d'une vérité absolue. L'absolu qui ne relève que de Dieu, diraient les croyants. De quoi parlons-nous aujourd'hui au Club de la Presse? Naturellement, du festival ou bien des initiations du phénomène Evala qui en est aujourd'hui à son sixième jour avec la finale qui doit se jouer entre autres dans le canton de Pia. Et puis d'autres sujets d'actualité comme Lomé que nous allons revisiter après la grande et l'abondante pluie d'hier. Les journaux reviennent sur ce qu'on peut appeler l'ordre Cocoroco dans le système éducatif du Togo. Et puis la polémique qui ne veut toujours pas tarir sur le recensement électoral ici au Togo. Avec le phénomène d'exode qui frappe Lomé et qu'une bonne partie de la population se retrouve dans la causa pour les luttes Evala, nous avons le mérite de compter quand même autour de nous deux confrères et l'homme Kossi Atichogbe de la Nouvelle Tribune. Bonjour.
Sas, bonjour. Bonjour Canal FM. Bonjour à toutes les auditrices. Bonjour à tous les auditeurs. Et une pensée particulière à tous. Ceux qui se retrouvent dans une situation difficile actuellement du fait de la pluie, la grande pluie qui s'est abattue sur la capitale hier.
Nous allons revenir sur cela. Bien heureux, le rescapé de l'exode créé par les Evala. Heureusement, il y a un deuxième aussi, Teko Magloire Kenvi. Bonjour.
Bonjour, Sas Gao, vous allez bien?
Je rends grâce à Dieu.
Super, je vais bien également. Je dis bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Canal FM, bien entendu les auditrices, je ne vais pas les oublier. Et spécialement à tous ceux qui nous écoutent du côté d'Akalakou dans la préfecture des Lacs et bien sûr à Koumambala dans la préfecture de Kloto.
Merci de toujours équilibrer, mais tu veux savoir pourquoi je vais super bien ce matin?
Je sais que d'abord vous êtes déjà merveilleusement bien habillé. Mm-hmm. Et vous avez une très bonne mine. Mm-hmm. De jolies paires de lunettes.
Tu sais qui me donne la bonne
chapeau.
Mine.
Un joli chapeau en
d'abord,
plus.
D'abord, tout ça, tu veux savoir qui me donne la bonne mine.
En tout cas, je présume.
Oui, vas-y.
Que ça doit être madame.
Madame.
Très souriante. Qui... Bonjour à elle.
Surtout que je suis jeune pépé depuis un mois.
Ah oui, ah oui.
Tu vois comment on
est. Il y a du nouveau, il y a de quoi.
Alors, tu vois comment on a bonne mine. comme Elom et moi, comme Michel, quand on est marié,
bien sûr. Bien sûr.
Eh bien, c'est une invitation.
Absolument, et Dieu verra. Et vous savez, peut-être je vais profiter aussi pour souhaiter bonne chance à un compatriote, le colonel Guy Akpovi. Vous savez que du côté d'Abidjan actuellement, la Confédération africaine de football est en assemblée générale et il a postulé pour un poste de membre en tant que représentant de la CAF dans l'espace UFOAB. Il sera en liste donc avec un Burkinabé et on lui souhaite donc toutes les chances possibles pour que, après les sous-marins femmes, après les CIMMN, que le colonel Guy Akpovi puisse intégrer l'instance africaine de football.
Merci. Nos voeux l'accompagnent à Abidjan et nous reviendrons sur cette session que la CAF tient aujourd'hui. Nous apprenons également que le comité exécutif de la CAF va écouter le rapport d'audit de son instance et ce sera présenté par notre compatriote Nourdine Assindo, qui est envoyé par le Togo à Genève, mais qui demeure membre de la commission d'audit de la CAF. Et le gouvernement togolais, la CAF, se sont entendus que Nourdine Assindo descende expressément de Genève pour présenter le rapport de la commission d'audit à cette session de la CAF, pour dire que l'homme aussi au Togo, nous avons la tête.
Oui.
La tête pour dire que nous sommes un peu intelligents.
Oui, c'est vrai, nous sommes intelligents. Et ça, c'est pas une information. Vous savez, beaucoup de, quand vous regardez un peu autour de nous, vous constatez qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont quand même très intelligents, qui osent. Mais on souhaite justement qu'il y ait plus de Togolais qui titillent les sommets, parce que souvent on n'aime pas sortir de nos réserves. Quand vous voyez sur la scène internationale, il y a beaucoup de Togolais qui sont plutôt dans leur coin, qui ne veulent pas véritablement oser comme d'autres compatriotes. Je pense qu'on a de la matière. Il faut que davantage de compatriotes se positionnent pour des postes à l'international. Quand vous regardez, c'est les Nigériens partout. Si ce n'est pas les Nigériens, c'est les Sénégalais. Si ce n'est pas les Sénégalais, c'est les Ivoiriens. Mais il faut qu'à un moment donné, les Togolais commencent à sortir la tête. Donc, félicitations à Nourdine Assindo qui fait parler du Togo au niveau de la CAF et bonne chance au colonel Guy Akpovi.
Et si nous le disons, c'est pas pour consoler notre ami Philippe Kokou-Chaudier, lui qui a échoué de très peu à l'OMD, mais c'est pour dire à l'endroit de Chaudier et de nous tous, continuons à rêver grand et donnons-nous les moyens de nos ambitions. Le Togo a beau être petit rectangle, mais le drapeau, il nous appartient à nous Togolais de le faire flotter. Dans le firmament des cieux, dans les concerts des nations. Mais nous allons quand même continuer avec une petite page de carnet noir. Nous sommes le 13 juillet 2023 et il vous en souvient, il y a exactement un an, il nous quittait subitement après quelques jours de maladie. Lui, c'est où c'était Kondi Madom Charles Agba. De son vivant, professeur émérite des universités en médecine vétérinaire, ambassadeur, ministre, élu député, écrivain, orateur hors pair, etc. Un homme au verbe riche et colorié, homme de valeur, de mérite et de principe. Il s'en est allé il y a un an et en ce jour, premier anniversaire de son décès, nos pensées amicales vont à l'endroit de sa veuve, Madame Marie Noufo Ouadja, épouse donc Agba, à leurs enfants et à toute la famille Agba à Kabou, dans le Bassa, mais également dans le monde entier. Et puis, quelques minutes avant d'entrer en studio, nous apprenons la mort subite hier 12 juillet de Handel Fessou Lawson Plaka, ancien grand joueur des équipes Entente 2 de Lomé, de l'Étoile Filante et de l'équipe nationale du Togo des années 1980 et début des années 1990. Handel Fessou Lawson Plaka avait commencé sa carrière de footballeur comme attaquant, puis il s'est reconverti défenseur central, joueur élégant, dur sur l'homme. Il s'en est allé. Ma gloire est trop jeune pour avoir vu Lawson Plaka sur le terrain.
Oui, vous l'avez dit, nous, on est de la jeune génération. On n'a pas eu cette chance-là de le voir à l'œuvre. Qu'à cela ne tienne, vous savez, l'histoire est toujours écrite pour la génération future. et nous avons eu, n'est-ce pas, parcourir les moments glorieux de ces vaillants joueurs togolais, à l'instar donc du regretté Dinké Oiseau également, qui ont fait flotter véritablement le drapeau togolais dans le ciel africain. Malheureusement, l'homme étant aussi une espèce, on va dire, qui vit, à un moment donné disparaît. Il a plu au Seigneur de le rappeler auprès de lui. Mais je lisais aujourd'hui une petite anecdote sur lui où il est rapporté qu'il n'y a pas longtemps, il était au pays, je crois, et il donnait des petits conseils aux jeunes joueurs que lorsque vous voulez laisser votre nom dans le secteur du football, il faut y aller avec de la manière. Soit vous avez votre place ou soit vous disparaissez carrément. Et donc, je crois que le message, ce conseil-là, vaut de l'or. Il faut absolument que les jeunes générations, les jeunes aujourd'hui qui ont cette passion pour le football puissent marcher dans les traces de ces grands hommes-là, comme le feu Placard qui vient de nous quitter.
Merci. Un autre rescapé des Evala qui finalement n'aura pas dépeuplé le met totalement. Cher Oulo, Jean Legrand pour l'Orini, bonjour.
Oui, ça c'est bonjour. Bonjour aux confrères studio et à tous ceux qui nous écoutent sur Canal FM. Vraiment, mes excuses pour ce retard.
Indépendant de ta volonté.
Non, je n'ai pas de raison, mais je me présente juste mes excuses.
Et si tu le dis, c'est que la prochaine fois, tu seras à l'heure.
Tout à fait, ça, c'est toi qui me dis que je suis toujours à l'heure.
Et tu parles à ceux qui sont tes parents, tes grands-parents qui t'écoutent en direct.
Bien évidemment.
Merci. Alors, Elam, pour revenir un peu dans la foulée de cette disparition de Handel Fessou Lawson Placa, on a parlé également de cette session que le comité exécutif de la CAF tient aujourd'hui même à Abidjan, à quelques mois de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut rappeler que c'est aujourd'hui qu'en marge de sa session, la CAF va procéder au tirage au sort des équipes qui devront participer aux éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer dans trois pays, le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Le Togo qui a raté toutes les grandes compétitions jusqu'à aujourd'hui, il faudra que le Togo commence par s'armer pour sortir honorablement des éliminatoires qui vont commencer incessamment.
Oui, ça c'est très important. Vous savez, on a un profond travail à faire autour de notre équipe nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un découragement ou une démotivation des populations, des fans du football autour de l'équipe nationale togolaise. Mais je crois quand même qu'il y a un gros travail à faire derrière, surtout que nous n'avons pas de relais, d'équipe relais. On n'a pas réussi à construire le football à la base. Et avec la génération Adebayor, on était vraiment, vraiment très content de voir cette belle époque de joueurs, cette belle époque, en fait, cette belle brochette, voilà, de joueurs. Et ensuite, ces beaux matchs, ces belles rencontres qui se succédaient, si bien qu'on a oublié de construire l'équipe nationale togolaise à la base. On a oublié les centres, on a oublié les cadets, les juniors. Et quand vous parlez de la CAN 2000, CAN cadet, c'était quand 2007,
que nous avions abrité au Togo, et nous étions même allés jusqu'en finale.
En finale. Et quand vous regardez par exemple cette belle époque de par rapport à nos joueurs de l'équipe nationale cadette, et avec ces Aouignon Papa, les Kémy Boalex, et aujourd'hui on se pose la question de savoir ce qu'ils sont devenus. Mais quand vous regardez au niveau de l'équipe nationale d'Allemagne, vous voyez les Toni Kroos qui étaient de la génération des Kémy Boalex, ils sont devenus des stars du Real Madrid.
Qui est mon cousin d'ailleurs, faut préciser.
Voilà. Voilà, vous voyez comment au niveau de l'international, dans d'autres pays, on se soucie du football à la base. Mais ici, quand vous regardez l'équipe nationale cadette de l'époque avec les Sekbe Fia et tout ça, mais personne n'a réussi à venir en équipe nationale comme les princes, par exemple, Sekbe Fia, ou encore Aouignon Papa qui a fait une sélection, ou le gardien Sodo Ketidjan, vous vous rappelez. Exactement. Et donc, on a suffisamment de choses à faire, on doit travailler sur nous-mêmes. Il ne faut pas que l'équipe Fanion nous aveugle. Vous comprenez? Il faut construire le football à la base. Il faut avoir, on ne peut pas constituer une équipe seulement sur les seniors. Il faut qu'il y ait des juniors, il faut qu'il y ait des cadets. Et donc, si nous devons nous lancer dans cette campagne pour la Coupe du Monde, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, il faudrait qu'on fasse un travail sérieux à la base, sincèrement. Il ne faut pas qu'on déporte les gens. Aller faire de la prospection pour découvrir des compatriotes qui évoluent à l'international, oui, c'est bien. Mais on constate souvent que quand ils arrivent chez nous, ils sont dépaysés. Ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, il faut construire le football à la base. Les centres de formation sont là. Le championnat est là. Construisez quelque chose. Junior, cadreusement dans le CHAN aujourd'hui, où on peut détecter de meilleurs talents, de meilleurs joueurs. Et allons-y. Et puis, faisons les choses bien.
Oui, dans la foulée, il y a le championnat D1 qui se joue. Il y a le championnat D2, le Togo qui renoue également avec le championnat D3. C'est une bonne chose. Et en plus, il y a également les championnats scolaires universitaires qui reprennent de la vigueur. Tout cela, l'espoir est permis. Eh bien, du football aux Evala qui sont à leur sixième jour aujourd'hui avec la finale qui va se jouer dans le canton de Pia. Mais d'autres, la compétition continue jusqu'à samedi dernier. Mais en prélude aux Evala, le Comité national olympique du Togo s'est transporté dans la région de la Kara. Nous en parlions brièvement la semaine passée. Nous relevons, nous rappelons cela avec la journée olympique qui avait été commémorée à Kara avec quelques compétitions également. On peut dire que le CNOT a allumé la flamme olympique avant la flamme des Evala. Et l'homme?
Bon, oui, c'est vrai. C'est vrai que depuis que ce nouveau bureau est là, ils font quoi? Ils sont en train d'amener l'olympisme vers les populations pour que les gens découvrent à peu près ce qu'on appelle le sport. Parce que à l'intérieur du pays, les gens ne pratiquent que le football en général. Quand on veut faire une activité, par exemple, dans plusieurs localités du Togo, c'est le football qui rassemble les gens. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de disciplines qui également rassemblent. Quand vous prenez, par exemple, le basketball, quand vous prenez le tennis, quand vous prenez l'athlétisme aujourd'hui, c'est des disciplines qui rassemblent du monde. Donc, il va falloir qu'on puisse, à part le football, mettre l'accent sur d'autres disciplines également pour que les populations de l'intérieur découvrent ce qu'on appelle l'olympisme, les valeurs olympiques. Et donc, c'est ce qui s'était passé à Accra le 7 juillet dernier.
Merci, Lomé et la grande pluie d'hier. Revue de presse avec le confrère Le Changement qui titre aujourd'hui à la page 6. Les pluies diluviennes d'hier ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts à Lomé. Et Jean Legrand Polorini, ton journal Image à la pu et à la manchette, avec ce titre, pluie diluvienne, Lomé sous les eaux. Oulo.
Oui, ça, vous savez, nous tous nous sommes réveillés hier avec difficulté, avec douleur. Regarde la petite pluie qui s'est abattue sur la ville.
Petite pluie, tu dis ?
Petite pluie en ce sens qu'elle n'était pas véritablement forte. Moi, j'étais dans la zone d'Agoué, mais une quantité vraiment importante d'eau est tombée en ces petites quelques heures. Mm-hmm. Et les dégâts, nous tous, nous les avons constatés, notamment au niveau de plusieurs quartiers, en l'occurrence 10. Quand vous parlez, vous allez au niveau d'Agoué, vous avez les retenues au niveau des bassins, le bassin de Lyon, au niveau de et Djeranaoui et d'autres endroits. Véritablement, c'est une situation compliquée et difficile pour ces populations-là qui sont réveillées. Moi, j'ai fait un tour pour voir de visu véritablement ce qui s'est passé. Beaucoup de maisons ont été véritablement inondées, beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, ça pose un véritable problème parce que à la moindre pluie, je crois que les bassins qui étaient véritablement aménagés pour résoudre ce problème aujourd'hui sont dépassés par le phénomène et on ne sait plus à quel sens se vouer. Mais c'est le lieu également de préciser que la situation que nous vivons à Lomé n'est pas uniquement l'apanage de Lomé. Il y a beaucoup d'autres pays côtiers qui traversent la même situation. Quand vous allez au niveau d'Accra, même en Côte d'Ivoire et à Cotonou, ils ont également vécu ces petits soucis-là en matière d'inondation. Et quand vous regardez un peu plus en profondeur, il y a beaucoup de causes qu'on peut doiter, notamment l'urbanisation anarchique qui a lieu ces dernières années, la population qui augmente vraiment à une vitesse qu'on n'arrive plus à maîtriser, et l'incivisme également des populations qui bouchent les caniveaux et tout ça. Tout ça fait qu'aujourd'hui, les eaux n'arrivent pas véritablement à s'écouler vers la mer. Et, par exemple, hier, le bassin au niveau de Lyon était rempli. Or, une fois que ce bassin est rempli, il se déverse au niveau du bassin d'Agbalépédo. Or, le bassin d'Agbalépédo également était rempli. Donc, il a fallu attendre jusqu'à 14 heures avant que l'eau qui est au niveau du bassin des deux lions ne commence pas à être pompée pour aller vers la mer. C'est dit qu'il y a un problème au niveau du tout va vers la mer.
Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut que véritablement les pouvoirs publics essaient de réfléchir, de trouver une autre solution qui puisse permettre à ce que les populations ne soient plus victimes de ça. Parce que vous attendez une petite pluie qui arrive, les gens sont dehors. Une fois, deux fois, trois fois, véritablement, c'est compliqué. Également, on dit que gouverner, c'est prévoir. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une urbanisation anarchique depuis quelques années, mais il faut véritablement que maintenant, on pose les pieds à terre et voir comment on peut régler définitivement ce problème. Quitte à voir comment réaménager les quartiers. C'est vrai que ces réformes vont entraîner des remous et tout ça, mais il faut y aller, parce que si on continue par attendre à jouer au sapeur-pompier, ma foi, les gens seront toujours frustrés. Il faut qu'aujourd'hui, le gouvernement essaie de voir véritablement quelle solution. C'est vrai qu'entre temps, les bassins ont résolu un temps soit peu le problème, mais aujourd'hui, les bassins sont dépassés à cause de la forte pluviométrie, à cause des changements climatiques. Maintenant, il faut penser qu'est-ce que nous pouvons proposer de plus de nouveau pour quand même résoudre ce problème. Également, il faut saluer l'alerte précoce de l'ANPC qui a vraiment usé de tout son poids hier avec la coordination avec les maires pour que l'eau soit pompée à certains endroits et qu'on puisse trouver quelques solutions, quelques palliatifs pour soulager les populations sinistrées.
Flambeau également, qui à la page 5, titre inondation, trompe suspension, notre l'eau met, à savoir L'EAU-ME, pour dire l'eau met était vraiment dans l'eau. Et il y avait ce rappel que plusieurs maisons étaient inondées. Et c'était affreux, écrit le Flambeau, ces images des zones et ménages sinistrés avec la question « À qui la faute ?» et « Quelles sont réellement les pistes de solution ?» Magloire.
Oui, ça, vous savez ce qui s'est passé hier. C'est vrai que depuis quelques temps, on constate que beaucoup de quartiers de Lomé sont inondés à la moindre pluie. Mais le niveau d'eau qu'on a connu hier, ça fait quand même un bon moment qu'on n'a plus vu ça. Au niveau de notre rédaction, nous avons fait un peu le tour de Lomé. On a fait Nyekonakwe, Kodivia Kopé, Doulasame, Avatame, même Agwe, les environs Ebay. Et tout ça, Lomé était complètement sous l'eau. Alors, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, comme vous l'avez dit. C'est vrai, l'ANPC adresser, on va dire, le tableau récapitulatif de ce qui s'était passé, mais on va se dire la vérité, ce tableau-là n'est pas exhaustif. Hein? Vous parcourez Lomé, vous vous rendez compte que c'est plus vaste que ce que l'ANCP a avancé comme tableau. On le félicite pour le travail abattu, mais vous allez voir que derrière, la police nationale, par exemple, invite les populations à plus de vigilance parce que la dynamique est telle que il va y avoir encore de grandes pluies. Et les risques d'inondation sont encore là, perceptibles. Et donc, il va falloir que chacun multiplie plus d'ardeur, plus de vigilance. Maintenant, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que comment se fait-il que Lomé, la capitale du Togo, est frappée en plein cœur et de plein fouet? Tout à l'heure, mon confrère Jean parlait de la sous-région, mais la nuance qu'il y a et qu'il faut relever, c'est que quand vous prenez Accra, quand vous prenez Abidjan, par exemple, ce ne sont pas le cœur des capitales qui sont frappées, c'est dans les banlieues que les ménages sont inondés, les maisons et tout. Mais comment se fait-il qu'à Lomé, c'est en plein cœur qu'il y a eu ces inondations? Mais pire encore, il a parlé d'Agoué. Agoué, c'est le nouveau quartier actuellement. Mais Agoué aussi a les pieds sous l'eau. Ça voudra dire qu'il y a un sérieux problème. Vous vous rappelez que pour régler ce genre de problème, le gouvernement togolais, à partir de 2010, a multiplié ses partenariats avec ses partenaires, enfin, oui, ses partenaires, notamment la Banque mondiale, hein, ces partenariats qui ont conduit à la construction, n'est-ce pas, des ouvrages techniques pouvant éviter à Lomé ce genre de situation. Mais on se demande comment se fait-il qu'après tous ces travaux, tous ces milliards engloutis, on est encore à ce niveau. Regardez au niveau de la douane à Didogomé, le bassin qui est là. Il n'y avait pas une si grande pluie avant que ce bassin-là ne soit complètement inondé, débordé. Mais il a fallu que, je crois, la commune Golf 7, hein, il a fallu que cette commune entreprenne de petits travaux là-bas. Ce bassin n'est plus inondé. Hein. Oui. Et ça voudra dire qu'il y a un réel problème. Quels sont ceux qui ont travaillé sur la construction de ces bassins de rétention d'eau? La question se pose. Et vous allez voir que dans notre article, on a dit quelles peuvent être les pistes de solution. Où sont nos ingénieurs? Parce que nous en avons assez au Togo. Où sont nos urbanistes? Nous en avons assez au Togo. Et il est quand même grand temps qu'on mette chacun devant ses responsabilités. Alors, c'est le lieu même d'interpeller les autorités. Parce que quand il y a des appels d'or pour les marchés publics, souvent, c'est les anagoplans qui conduisent à ce genre de situation. On a des entreprises bien rodées à la matière, mais on a même, par exemple, des maçons pour faire des routes. Et quand la situation est comme ça, on ne peut qu'assister à ça. Et donc, à malheur, quelque chose est bon. Courage à tous les Togolais qui ont les pieds sous l'eau aujourd'hui. Mais je crois que la balle est dans le camp des autorités. Il faut agir pour éviter le pire.
Nous tous, c'est le moment de se poser opportunément des questions si on veut prévenir de tels drames à l'avenir. Mais quand on revient à Lomé il y a 48 heures, c'était pour être positif. Une de belles cartes touristiques, mais la réalité c'est que Lomé ressemblait par endroits à une ville lacustre. Et comme l'illustre si bien la Nouvelle Tribune, il était difficile de circuler dans la capitale togolaise hier. Plusieurs quartiers inondés, des retenues d'eau et bassins débordés par endroits, des routes impossibles à emprunter, même sur la grande voie. Comment l'appelle-t-on
qui va vers hôpital.
Hôpital,
là. Même j'ai failli tomber dans la lagune hier.
Ah, heureusement que tu as évité, parce que déjà avec ta taille, je ne sais pas comment on aurait pu te retrouver.
Mais
24 heures après, ce matin, j'ai circulé en plein d'endroits. La situation est redevenue pratiquement normale. Bien sûr, on voit les séquelles.
Mais dans les maisons.
Mais les voies quand même. Sont dégagés et surtout la belle surprise et l'homme, la belle surprise à toi et à moi et aux riverains, c'était le bassin d'Adido Gomé qui n'a pu déborder hier.
Oui, ça moi-même j'étais vraiment, vraiment surpris parce que moi je m'attendais, puisque quand vous regardez les images avant de sortir de la maison, vous vous tenez la tête. Mm-hmm. Vous dites qu'est-ce qui va se passer quand je vais sortir mon véhicule, surtout que ça va être compliqué. Mais je tiens quand même à féliciter la NPC pour le travail qui a été fait hier, parce qu'à plein d'endroits dans la ville, vous allez constater qu'il y avait quand même un détachement de gendarmes, de policiers pour pouvoir aider la population à pouvoir vaquer à leurs occupations, et aussi aux citoyens, aux compatriotes qui, certains, sont restés dans l'eau en train d'aider d'autres concitoyens à pouvoir braver les vagues, etc. Il faut quand même tirer chapeau à cette belle solidarité, parce qu'il faut le dire, c'est une belle marque de solidarité qu'on a constaté hier.
Oui, à cela, maintenant, il faut ajouter également, selon les images vues sur vidéo, il y a quelques jeunes qui, spontanément, dans les quartiers, ont plongé dans l'eau avec beaucoup de risques.
Oui.
Mais c'est pour déboucher les caniveaux qui étaient obstrués.
Effectivement, c'est pourquoi je dis que c'était une belle marque de solidarité auquel on a assisté hier, à laquelle on a assisté. Et moi, je voudrais sincèrement tirer chapeau à tous ces jeunes qui se sont mobilisés pour aider des compatriotes à pouvoir se tirer d'affaires. Cependant, ce qui s'est passé hier appelle à trois observations majeures. La première, c'est qu'on est de plus en plus devant la réalité du réchauffement climatique. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une affaire qu'on dit ou qu'on raconte ou qu'on regarde à la télé au Japon, en Chine et dans d'autres pays. Nous sommes en face d'un réel problème environnemental. C'est le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, la quantité de pluie qu'il y avait il y a de cela 5, 10, 15 ans, ce n'est plus la même quantité de pluie qu'on a aujourd'hui. La quantité de pluie qu'on a aujourd'hui dépasse ce qu'on avait. Et donc, on est en face d'un réel problème de réchauffement climatique auquel il faut trouver des solutions. Et la solution qu'il faut trouver à cela passe déjà par notre comportement en tant que citoyen. Parce que nous devons, à notre niveau, chacun individuellement, commencer à lutter sérieusement contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas qu'une affaire d'entreprise ou d'industrie. C'est d'abord une affaire citoyenne. C'est d'abord une responsabilité citoyenne. Et nous devons tous être éco-responsables en ne jetant pas les ordures dans les caniveaux, dans la rue, n'importe où, en faisant usage de plastique biodégradable, même si vous avez, parce que ça aussi, il faut que l'État puisse commencer à réguler ce domaine, parce que nous ne pouvons pas continuer à rester sous ce carcan-là. Deuxième observation, c'est par rapport aux mairies. La situation hier a révélé, en fait, la frilosité des mairies face aux problèmes, face aux risques des inondations. Pourquoi je le dis ? Quand il y a eu la décentralisation, le budget de l'ANASAP, l'Agence nationale de salubrité publique, et le budget de l'ANPC, l'Agence nationale de protection civile, a été un tout petit peu dégraissé pour pouvoir transférer ça à la compétence des maires. Vous comprenez ? Même si les mairies n'ont pas usage ou autorité à lancer un appel d'offres construire une retenue d'eau, ils ont quand même qualité à s'entretenir ou bien à s'occuper de l'entretien de ces retenues d'eau et ensuite des caniveaux. Ce qui fait que dans la capitale, vous avez constaté que cette année aussi, il y a eu des curages de caniveaux à certains endroits de la ville de Lomé. Sauf que les mairies ne sont pas allées au-delà du classique. C'est-à-dire, ils ont le budget, mais qui a fait, comme Magloire l'a dit, on dispose de quelles compétences ? Aujourd'hui, Lomé ou le Togo a la chance d'avoir d'abriter l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme.
Depuis près de 40 ans,
et sinon plus. Et on ne tire aucun profit de ça. Mais dites-moi, quel maire, par exemple, a demandé à l'ERMO de lui donner une assistance technique pour s'occuper du curage des caniveaux ? Aujourd'hui, on ne cure plus les caniveaux comme on le faisait dans l'ancien temps, où les gens descendent avec des roues, des pelles, etc. On ne le fait plus. Mais on a des urbanistes. On a des urbanistes, je ne parle pas d'architectes, parce que ce qui se passe, c'est une affaire d'urbanisme. On a des urbanistes qui sont là, mais faites leur appel. Ils ont juste besoin de pouvoir assister les mairies dans quoi ? Dans le curage des caniveaux. Et donc, ils peuvent développer des solutions plus modernes pour pouvoir curer les caniveaux. Troisième observation, pour finir, je vais m'en arrêter là. C'est par rapport justement aussi au métier futuriste. Vous comprenez ? Aujourd'hui, on le dit souvent aux jeunes, on le dit à beaucoup de personnes, les métiers futuristes, il faut commencer à s'ouvrir au monde. C'est quoi ? C'est l'aménagement du territoire, c'est l'urbanisme et c'est l'habitat. Arrêtons de perdre du temps dans les histoires de communication des entreprises ou d'action commerciale et force. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est-à-dire que quand vous finissez vos études, votre parcours dans ces filières, vous aurez de la peine à trouver du boulot. Aujourd'hui, les métiers futuristes, c'est ce que vous êtes en train de voir devant vous. C'est l'aménagement du territoire. C'est l'assainissement. C'est l'urbanisme. Et c'est, pour finir, les spécialistes en environnement.
Merci. Vous ne pouvez offre beaucoup d'opportunités de métiers. Il y a des écoles déjà qui ont commencé à anticiper. Notre ami là, ONG IJD, prêtez-moi son nom, Pascal Agbové, qui a déjà initié des formations dans ce sens. Je crois que l'ENA a également ouvert des filières dans ce sens. L'université de Kara, même de Lomé, ouvre des filières. Ouais. Nous sommes justement en vacances. Dans quelques jours, on va proclamer l'examen, les résultats du bac 2. Il faudra que les parents d'élèves, surtout les jeunes, s'orientent beaucoup plus vers ces filières porteuses que ce classique qui étale ses limites depuis quelques années.
Oui, pour ajouter aux filières futuristes, moi je vais ajouter la gestion des déchets. Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête chinois. Ce qu'on oublie, c'est quoi ?
Casse-tête togolais,
si vous voulez. Parce que tout est casse-tête ici. Aujourd'hui, la population est en train de croître. Qui dit augmentation de la population dit abondance de déchets. Comment on gère ces déchets ? Ce sont ces déchets mal gérés qui reviennent boucher nos caniveaux. Aujourd'hui, il faut que véritablement les gouvernants commencent à réfléchir. En tant qu'il y a le lancement du projet GEDEC avec le ministère de l'administration territoriale en partenariat avec Expertise France, moi je crois qu'il faut multiplier davantage de ces partenariats pour véritablement commencer par anticiper. Parce qu'on ne peut pas attendre d'être surpris. Nous avons eu récemment le recensement démographique. On sait à peu près combien de Togolais nous sommes. On sait d'ici 5 ans, 10 ans, combien nous serons. Il faut véritablement anticiper et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Comment, quand cette population grandit, comment nous allons gérer tel. Vous allez aujourd'hui dans les pays développés. Actuellement, c'est le véritable problème. On axe tous les fonds sur la gestion des déchets. Et l'on m'a parlé en première observation du changement climatique. Le drame dans cette histoire, c'est que ce n'est pas nous, les Africains, qui polluons l'environnement majoritairement. Ce qui crée ce dommage, c'est les pays occidentaux. Et nous, les pays sous-développés, nous
payons... Oui, mais Jean, nous aussi, nous avons décoiffé notre territoire. D'où cette ambition du gouvernement de planter un milliard d'arbres.
Je suis d'accord.
On le rappelle au gouvernement, mais nous oublions que c'est par nous-mêmes, citoyens, que cela doit commencer.
Oui, parfaitement, je suis d'accord. Nous avons notre part à faire dans ce grand combat-là.
Mais il faut dire que le véritable nœud, c'est au niveau des pays occidentaux. Combien nous nous polluons, combien nous dégageons de déchets qui puissent entraîner ce renversement, ce chamboulement-là dans le climat. Il faut dire que c'est les firmes-là qui aujourd'hui, et je vais dire vraiment, détruisent l'environnement, changent le climat. Et tant que nous, les pays européens, nous n'avons pas de marge de manœuvre, nous n'avons pas de moyens de pression, et souffrir, nous irons à ces différentes COP, prendre les avions, aller nous balader, revenir, et nous allons toujours vivre de plein fouet ces problèmes. Nous parce pouvons faire notre part.
La réalité nous attend au pays.
Et c'est ça.
Oui, Teko, on va terminer par toi.
Oui, je crois que c'est tellement pertinent ce qui se dit actuellement. L'homme a évoqué tantôt le volet protection de l'environnement. Et c'est en cela que je suis également d'accord avec vous, Sasgaou, que nous-mêmes, nous sommes peut-être victimes de nos propres actions. Voyez-vous, Jean disait tantôt que quand on parle d'urbanisation, on parle forcément de déchets. Et quand vous prenez ces déchets-là, la majeure partie de ces déchets, c'est les plastiques non biodégradables. Et pourtant, je me rappelle que dans ce pays, il y a eu une législation qui a interdit carrément la fabrication
l'utilisation.
Exactement. Mais aujourd'hui, à quoi nous assistons? Ça pilule même comme s'il n'a jamais eu une législation au Togo dans ce sens. Et en cela, je considère nous-mêmes comme acteurs de notre propre destruction. On peut beau accuser parfois l'Occident et tout, mais ici, il y a une chose dont on est convaincu, c'est que ces plastiques-là, une partie de ces plastiques non biodégradables est fabriquée chez nous ici. Et ces gens-là n'opèrent pas en clandestinité. Ils opèrent dans la zone franche là-bas, connue de tout le monde. À la fin, les fiscs, ils vont pour les impôts et tout. Mais on n'arrive pas à leur dire que, monsieur, ce que vous faites là, vous portez en torse à la législation du pays. Mais on s'étonne derrière que ces plastiques-là se retrouvent, n'est-ce pas, dans les caniveaux, pour boucher les caniveaux. Et en jargon militaire, on dit quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. Ça voudra dire que si on agit au mieux pour éviter en amont qu'il y ait fabrication et importation de ces plastiques-là, en aval, il n'y aurait pas, n'est-ce pas, des utilisateurs pour faire et boucher les caniveaux avec. Donc c'est un mouvement d'ensemble.
Faire comme nous disons. Exactement. À propos des sachets non biodégradables, vous rappelez cette célèbre histoire quand Fornia Singbe s'était vu offrir du pain dans un sachet noir, apparemment non biodégradable. Et je présume aujourd'hui qu'à la finale, Evala Appia, les sociétés qui ont envahi toute la région de la Cara vont distribuer des cadeaux, des gadgets,
même sans sachet.
Ouais, même aux autorités, aux plus grands, aux autorités. Mais est-ce que ces autorités s'assurent que les gadgets et cadeaux qui leur sont remis le sont dans des sachets non biodégradables? À Cara, il doit se trouver sûrement une dame également, notre amie. Némé Nyasingbe avec son ONG Togo Environnement Propre,
avec la brigade
qui a monté la brigade de veille environnementale. Je crois que Némé va garder le regard vigilant sur tout ce qui va se distribuer dans la région de la Cara comme sachet. Chapitre suivant, l'ordre Cocoroco dans les écoles publiques, disons même dans toutes les écoles, puisque vous abordez le sujet sous tous les angles. Et Oulo, Jean Legrand, tape à la page 4 de ton journal Canal D, tu écris « Éducation Cocoroco continue le grand ménage ». L'article dit qu'après avoir publié une liste des établissements scolaires privés en situation irrégulière et considérés comme clandestines, et ensuite une deuxième liste portant établissements privés, mais reconnus par l'État, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, technique et de l'artisanat, continue le grand ménage dans le secteur de l'éducation avec ce que Flambeau continue à la page 6, à savoir le code couleur pour les bâtiments scolaires, de l'ordre dans le désordre, écrit Flambeau, mais avant Flambeau, Canal D. Donc, ces différents ordres que Kokoroko met dans notre système éducatif.
Oui, ça, moi j'ai dit, s'il fallait avoir au moins 3, 4, 5 Kokoroko au Togo, je crois que plusieurs secteurs de notre pays se porteraient vraiment mieux. Il faut dire que l'homme pose des actions vraiment qui nous amènent vraiment à apprécier vraiment cette œuvre. Moi, je vais dire de réforme et une œuvre salvatrice parce que le secteur de l'éducation était une patate chaude et tous ceux qui prenaient ce secteur vraiment n'arrivaient pas à s'en sortir. Mais en quelques années, le ministre Kokoroko a vraiment pu rétablir un tant soit peu un certain ordre. Et la dernière trouvaille, c'est ce code couleur vraiment qui est rétabli parce qu'il faut le dire, ce n'est pas une nouvelle chose. C'est quelque chose qui était en vigueur depuis, mais non appliqué. Et Kokoroko est parti ressortir ça des tiroirs pour véritablement le mettre en place. Moi, je dis vraiment, c'est un courage dont le monsieur a fait montre parce que mettre en œuvre cette réforme, c'est se lever contre ces partis politiques et toutes ces entreprises-là qui offraient des établissements qui réhabilitaient, qui les mettaient aux couleurs, notamment, il ne faut pas avoir la langue de bois, le parti au pouvoir, le parti unir, dont plusieurs cadres, dès qu'ils offrent un établissement où ils réhabilitent une école, on le peint en couleur blanc et bleu. Et dire que le ministre Kokoroko, qui est également membre du gouvernement aujourd'hui, se lève contre cela, c'est dire que on veut mettre les choses au pas. Et c'est quelque chose à encourager. On ne veut plus qu'il y ait du désordre et comme Magloire le dit, c'est de l'ordre dans le désordre parce que c'est vrai que quand il y a ces lois, personne ne les... On les foule aux pieds et petit à petit, le désordre, la normalité tend à devenir la norme. Mais à un moment donné, il faut qu'on se lève et c'est une action que le ministre a mise en œuvre et moi, véritablement, j'encourage cela et j'attends qu'à la rentrée 2023-2024, tous les bâtiments qui ont été peints en jaune, en violet, en bleu blanc, que tous reprennent les couleurs que le ministre a définies dans cette
maison. Qui va financer cela?
Ah, la note ne l'a pas dite, mais nous, quand même, vous attendons de voir.
Kokoroko dispose pour l'avenir.
Voilà.
Mais comme tu demandes qu'on repeinte.
Non, parce que ça ne servirait. Moi, je trouve que ça ne servirait à rien de prendre cette note et qu'on ne corrige pas ce qui est déjà fait. Merci ça ne peut pas beaucoup. Uniquement disposer pour l'avenir.
Eh bien, comme Flambeau l'écrit, c'est de l'ordre que Kokoroko met dans le désordre pour ce qui est du code de couleur. Mais dans l'anticipation, Flambeau voit déjà un autre chantier que Kokoroko doit ouvrir. Il s'agira donc d'interdire la distribution en début de rentrée prochaine de fournitures de gadgets et autres articles scolaires à l'effigie des chapelles politiques dans les écoles.
En réalité, on ne finira jamais de féliciter le ministre Kokoroko. Peut-être beaucoup le prendraient comme un culte de personnalité, mais
parlons de fait.
On est loin de là, exactement. Hier, il y a un confrère qui ironisait en disant que après le ministère des enseignements primaires et secondaires, M. Fonyasibé doit envoyer M. Kokoroko au ministère de la Justice parce que c'est un réformateur agrégé. C'est pour dire en fait que l'homme impacte toujours lorsqu'il sait agir de réformer. Et ce qui est encore plus particulier, vous savez, Jean l'a dit tout à l'heure, il fait partie du gouvernement actuel et même du parti au pouvoir. Et ce n'est pas aussi facile de prendre des décisions comme ça qui, a priori, porte un peu en torse à l'intérêt de son propre parti, parce que on le dit, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres partis. J'ai vu, il n'y a pas que Unir. J'ai vu d'autres partis qui ont fait des bâtiments scolaires à des villages, des bâtiments qui ont été peints, n'est-ce pas, aux couleurs de ces partis. Et donc, mais c'est beaucoup plus Unir qui excelle dans cela. C'est vrai, peut-être souvent aussi, ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas forcément l'action du parti même, mais c'est des gens, soit des militants zélés qu'ils font, et même chez mes parents maternels à Kouma, la mairie était peinte, le bâtiment était peint en couleur bleu-blanc. Il a fallu que d'autres conseils municipaux disent « Niette, ça ne doit pas passer comme ça, qu'on change aujourd'hui. » Et donc, je crois que honnêtement, il faut féliciter le ministre Kokoroko, parce qu'il fait déjà assez avant ces mesures. Il a déjà entrepris plusieurs réformes pour faire instaurer de nouveau la discipline qui a disparu complètement dans le secteur de l'éducation. Mais là, nous pensons qu'après cela, il faut ouvrir encore un autre grand chantier, celui d'interdire la distribution des gadgets scolaires, des cahiers, des bics, tout ce que vous connaissez à l'effigie des chapelles politiques. Parce que c'est aussi ça l'autre danger. L'école, elle est apolitique. Mais on ne sait pas comment les gens se débrouillent pour fabriquer ou faire fabriquer des cahiers à l'effigie, par exemple, de M. Fognassi. Vous allez encore le voir à la rentrée prochaine. On donne des cahiers.
J'espère que non.
Nous l'espérons. C'est pour cela que nous faisons mieux même d'interpeller le ministre dès ces vacances-ci. Parce que ça va arriver. Les gens qui ont les moyens, qui veulent faire des dons aux gens, c'est bien. Mais pourquoi teinter ces dons? Quand on sait surtout que l'école est apolitique. C'est pour cela que nous disons le grand chantier qui arrive, c'est qu'on interdise également la distribution de ces cahiers, crayons, bics, tout ce qui est gadget scolaire à l'effigie des chapelles politiques.
Ça, quelle qu'elle soit.
Et donc, le faire ainsi, c'est rendre service utile à l'école togolaise et au développement du pays.
Merci. L'ordre Kokoroko, hein, il ne manque pas d'idées, il ne manque pas non plus de courage pour les imposer parce que tout ce qu'il fait, il faut avoir une certaine dose de courage pour secouer le mammouth, secouer le cocotier. Mais ce n'est pas que nous faisons de lui un culte de personnalité et encore que ses réformes lui reviennent souvent sous d'autres formes de critiques, de ceci, de cela. Les codes couleurs, je n'ai pas encore observé de contre-attaque, mais quand il avait sorti la liste des établissements privés non agréés, des gens lui avaient demandé, et tous les élèves qui fréquentaient ces écoles dorénavant fermées, ces élèves iraient où? C'est pour dire que les réformes de Kokoroko ne sont pas exemptes de critiques.
En réalité, ces directeurs d'établissement qui se posent la question de savoir où est-ce que ces élèves vont pouvoir faire leur inscription cette année, ils ont tout faux. La réforme relative à la fermeture des établissements scolaires privés n'a pas commencé sous Kokoroko. Ça a commencé sous Manganawe, le ministre Personam.
Personam, oui.
Et je me rappelle qu'il y a eu une tournée à l'époque, il y a de cela 8 ans, pour répertorier les établissements scolaires privés qui ne respectent pas les normes. Il y avait même eu une commission au ministère de l'enseignement primaire et secondaire chargée de normaliser la situation. Et les gens défilaient, les directeurs d'école défilaient pour essayer de normaliser la situation. Prenez par exemple une école privée qui est là, qui a des élèves, mais qui a à sa devanture un dépotoir et qui derrière a une dame qui fume du poisson. Mais comment on peut continuer à autoriser cette école? L'école se trouve à Goa ici. Je ne vais pas vous donner la localisation précise.
Mais je suis ton regard.
Oui, mais parce que j'ai fait un tour là-bas et je sais de quoi je parle. Mais comment est-ce qu'on peut autoriser une école comme ça pour suivre les activités scolaires? Impossible. Et donc, si les gens disent aujourd'hui que non, pourquoi le ministre Kokoroko interdit ou bien ferme ces établissements, mais ils ont tout faux. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais si les gens sont responsables d'école et fondateurs d'école, ils doivent savoir que cette réforme a commencé bien avant le ministre Kokoroko. Et après Manganawe, il n'y a pas eu le ministre Kokoroko. Il y a eu d'autres ministres. Vous comprenez? Et donc, si après le ministre Florent Manganawe, paix à son âme, il y a eu d'autres ministres qui sont arrivés à ce portefeuille-là, qui ont pris en charge ce portefeuille avant l'arrivée de Kokoroko et jusqu'à ce que le ministre Kokoroko ne puisse prendre cette sanction-là, ça voudra dire qu'il y a eu quand même des années où les gens ont refusé délibérément de se conformer. Et ça, c'est un refus délibéré d'obéir et de se conformer à la loi. Mais comment vous pouvez continuer par recevoir des enfants ou des élèves dans des conditions aussi catastrophiques où les gens mettent la fondation sur le premier niveau? Demain, on augmente, on met le second, le troisième, sans savoir véritablement que la fondation puisse supporter jusqu'à 3-4 niveaux. Mais ça, c'est dangereux. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui jeter la pierre au ministre Kokoroko, qui n'a fait que prendre ses responsabilités face à une situation que nous-mêmes nous déplorons. Parce que vous constatez avec moi que quand votre enfant commence le CP1, il est peut-être au rez-de-chaussée. L'année qui va suivre, on dit qu'il est au CP2, il est peut-être au premier niveau. Et vous constatez que l'immeuble même est au quatrième niveau. Par exemple, en temps, le fondateur a mis la sixième là-bas. Et l'année qui va suivre, il augmente encore. Il dit que bon, maintenant j'ouvre le lycée. Et il met la seconde. Donc ça fait 4 ou 5 niveaux. Mais il se dit, mais chaque année, on met le truc. Mais vous posez la question, voici le bâtiment là-bas tenir. Parce que votre enfant
est entretenant dans une classe là-bas. Et si le bâtiment s'effondre, vous imaginez les dégâts. Et donc, je ne sais pas si les gens voulaient qu'on en arrive là, ce qu'on ne souhaite pas, avant de pouvoir prendre les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'école, c'est fondamental.
Merci encore une fois. Gouverner, c'est prévoir. Nous n'allons pas nécessairement attendre qu'un établissement s'effondre avec des lots de morts, de blessés avant de réagir. Kokoroko le fait. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et également que la solidarité gouvernementale lui permette d'avoir les moyens de loger quand même les élèves qui verraient leur établissement fermé dans quelques semaines à l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024. Il sort 11h51 et nous continuons, terminons avec la politique, notamment avec cette polémique qui décidément ne veut pas tarir sur le recensement électoral. Même si pour la CENI, appuyé par le CPC, le recensement doit être considéré comme fini et qu'on doit passer au stade de l'apurement des listes électorales, avec ces 91 000 doublons dont on nous parle, mais Canal D nous rappelle que l'apurement des listes électorales se fait donc face au grincement de dents. Et les grincements de dents s'expriment également à la page 3 de Flambeau qui écrit « Politique niette du CPC à la prorogation du recensement dans la zone 1. Curieux, voire invraisemblable, cette mesure qui revisite le CPC comme ce que Magloire disait déjà. Le CPC, c'est pour vous la balade des gens heureux. Et ils viennent de le prouver encore à leur dernière session.
Et c'est très malheureux. C'est très malheureux parce que à la création donc de la CENAP, d'abord, on nous a dit que c'est un cadre de discussion qui réunit les acteurs politiques pour décider ou du moins discuter d'abord des sujets brûlants de l'actualité, de tous les secteurs, et essayer de faire des recommandations au gouvernement pour que le gouvernement prenne des décisions qui vont au bénéfice de la population. C'est dans ça qu'on est. Eux-mêmes, ils se sont débrouillés pour nous dire à la fin que la CENAP a pris fin et que la CENAP a donné naissance au CPC. Nous autres, on est pro pour parler, discussion, le dialogue. Parce que nous disons que on ne peut pas être des Togolais et se refuser de parler. Donc n'importe quel cadre de discussion qui est censé résoudre les problèmes des Togolais, nous, on épouse. Sauf que, ici, là, ces acteurs-là qui se retrouvent au CPC prouvent à suffisance aux Togolais qui n'avaient pas tort de ne pas leur faire confiance. Aujourd'hui, je lis le cas qui accuse, par exemple, M. Adjourovi d'avoir menti. Alors, ça devient intéressant. Si les acteurs politiques eux-mêmes s'insultent de menteurs, ça voudra dire qu'en réalité, comme on l'écrit, derrière, ce n'est qu'une balade des gens heureux.
Avant de continuer, il y a justement ce titre du confrère Le Changement à la Parole 3 intitulé « Clarification du cas suite à la rencontre des acteurs politiques au CPC sur le recensement électoral ». Robert Yaodete, daté, le président du CAR, qui dément les contre-vérités du président du CPC, avec une citation originale à l'appui, ce que Adjourovi a dit est faux. Nous avons bien insisté qu'il faut reprendre le recensement dans la zone 1. Fin de citation de Yaodete.
Voilà, parce que au premier jour, on a écouté plusieurs acteurs politiques présents aux travaux qui ont dit que à l'unanimité, ils ont reconnu qu'il y a eu des défaillances, qu'il y a eu des dysfonctionnements, des manquements qu'il faille corriger et qu'ils espèrent qu'au deuxième jour, qu'une décision soit prise dans ce sens. Mais on a été surpris qu'à la fin, M. Adjourovi, qui est le président, vienne parler au nom de tout le groupe pour dire que le sujet n'a pas été discuté ou bien que les acteurs n'ont pas évoqué.
Si, il a dit que le sujet était discuté,
oui.
Mais que la majorité des participants au CPC n'ont pas adhéré dans le sens de la reprise du recensement.
Voilà, on le prend au mot, mais la finalité c'est que ce que les Togolais voudraient, ça n'a pas eu lieu. Et donc aujourd'hui, il n'y a même plus à mettre de côté UNIR, ANC, quoi, car eux tous, ils sont dans le même bain. les Togolais n'ont plus raison de leur faire confiance. Et c'est très malheureux parce que tous les Togolais ne peuvent pas se retrouver au ministère de l'administration territoriale pour discuter de l'avenir du Togo. On leur a délégué leur pouvoir pour parler en leur nom. Mais si à la fin, on a tout senti que des Togolais voulaient se faire établir leur cadre d'électeur, mais pour plusieurs raisons n'ont pas pu le faire. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais qu'on refuse, qu'on fasse comme si de rien n'était, c'est méchant, c'est malheureux. Merci. Dire qu'on est entre nous Togolais et qu'on fait la politique comme ça, on est désolé.
Merci. Il y a un communiqué publié il y a quelques heures par l'ANC qui rétablit également une partie de la vérité, ce qui vient s'ajouter à ce que le CAR a dit. Mais au-delà même des acteurs du CPC, il y a la société civile, hein, dont le changement, parle, et avec ce titre, refus de la reprise du recensement dans la zone 1, les organisations de la société civile sont en colère, notamment le responsable de la coalition, l'IDAO, notre ami Doji Netekumu. Et le changement fait un autre article, là, la page 3 intitulée « Refus d'une reprise du recensement de la zone 1 » par Koma Djourovi, qui fournit des arguments pour contester l'équité et l'inclusivité des futures élections. Et Oulo, c'est justement ce que nous craignons, que ce recensement ne fournisse pas des arguments à d'éventuelles contestations, voire des difficultés demain. Et c'est ce qui commence déjà malheureusement.
Oui, ça, si tu te rappelles bien, il y a déjà 3 semaines, quand nous avions abordé ce débat autour de cette table, j'avais fait la même observation. Qu'il ne faut pas qu'on donne du grain à moudre à certains dans quelques mois et qu'on dise que, à cause de tel, aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas ces élections et on retourne dans le bis repetita des mêmes problèmes. Quand je suis cette actualité, ma foi, je me demande si le Togo est un pays particulier ou si nous voyons toutes les choses de la même manière. Parce que quand quelque chose est flagrant, mais que certains s'accordent, prennent leur seule voix pour dire que non, tout est normal. Bon, je dis, est-ce qu'on insulte l'intelligence de tous les autres ou bien c'est nous qui n'avons pas la clairvoyance, le reste du peuple qui n'a pas la clairvoyance de voir les choses comme cela doit être vu. Et peut-être il faut qu'on nous donne la lunette pour voir comme eux ils voient. Là, on comprendrait. Moi, j'ai trouvé ça un peu ahurissant. Qu'on nous explique qu'est-ce qui empêche ou bien quelle est la raison qui motive le fait de ne pas aujourd'hui reprendre ce recensement dans la zone 1. Quand les mêmes personnes, tous à l'unanimité, je le précise, après le recensement dans la zone 1, ont trouvé qu'il y avait des dysfonctionnements, ont trouvé qu'il y avait des irrégularités, les failles, et le gouvernement lui-même, en conseil des ministres, écrit blanc sur noir, ce n'est pas les OBOB, tout le monde a vu que non.
Tout le monde a vu, entendu
que le recensement ne s'est pas bien fait. Et à cause de cela, on a reporté le recensement dans les zones 2 et 3. Suivez la chronologie. Vous reportez pour dire qu'on veut bien faire les choses. D'une semaine. Maintenant, on fait les choses dans les autres zones. On revient à Lomé. On dit qu'on ne va plus refaire. C'est-à-dire, quand vous rentrez même dans l'ensemble, elle, vous ne comprenez pas cette réaction. Comme Michel l'a dit, bah, peut-être c'est les politiques même ils ont décidé. Mais les techniciens, nous voyons tous, on n'a pas besoin d'aller à l'école, de faire Bac plus N pour comprendre qu'il y a un problème. Moi-même, je suis parmi les derniers à avoir eu ma carte de lecteur. Et je ne peux pas vous dire les salam alek, les gymnastiques que nous avons fait. Et on a utilisé même nos titres de journalistes pour dire aux gens, ah vous savez, nous sommes
attention,
des professionnels
cela
des médias.
Pourra s'apparenter
non,
à
c'est pas un trafic d'influence, mais
c'est
pour la bonne cause. Mais si je ne l'ai pas fait, est-ce que je peux venir parler ici? Non, il le fallait. Donc, tout le monde a compris comment ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, quelqu'un a dit que le bon sens n'a pas besoin de lumière pour être éclairé. Non, qu'est-ce qui ne va pas au niveau des politiques togolais? Et ceux qui n'ont pas pu se faire recenser, eux, ils n'ont pas droit. Ils ont commis quel crime? Ou dites-nous quel péché? Il faut quelle cérémonie vous faites pour purifier le péché là, afin qu'ils aient leur carte.
Attention, ne te laisse pas étrangler. On va terminer avec Elam Kossi.
Bon, en réalité, vous savez, on parle de ce sujet dans tous les sens. La presse en parle. Les Togolais, nos compatriotes même en parlent. Les hommes politiques en parlent. Et ça s'arrête là. Hein. on ne fait que blablater. Et, bon, on parle, mais ça dit que la machine avance. C'est en cela, en réalité, que moi, je réfléchis, je me dis qu'il y a un problème. Regardez, on va à un cas de discussion. Aucun parti politique de l'opposition, d'accord ? Aucun parti sérieux n'a pu sortir une petite étude sur le nombre de Togolais qui ne se sont pas fait recenser dans la zone 1. Aucun. Les gens sont là à dire qu'on ne s'est pas fait recenser. On ne s'est pas fait recenser. Il faut reprendre. Et c'est fini. Mais vous, quand des partenaires vont s'asseoir autour de la table, quand la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, etc., vont s'asseoir, ils vont dire, bon, concrètement, combien de Togolais ne se sont pas fait recenser? Vous allez dire quoi? Vous allez dire qu'ils ne se sont pas fait recenser, ils ne se sont pas fait recenser. Mais la politique aussi, c'est une stratégie. Mais faites des études. Mais brandissez les études, dites que notre parti politique a fait telle étude dans la zone 1 sur la population électorale en âge de voter. Voilà. On a les chiffres 1 million ou 2 millions, je ne sais pas. Encore qu'on est 2,888,000 à Lomé au niveau de la capitale. Mais sur la population électorale en âge de voter, si c'est 1 million, dites 1 million. On n'a pu recenser que 300 000. On n'a pu recenser que 400 000.
Chiffre à l'appui.
Voilà ce qu'on a fait. Mais pour ça, on a besoin de quoi? Mais il y a des si vous faites référence à des cabinets, il y a des statisticiens, il y a des étudiants en statistique dans la ville, hein, ils sont nombreux. Mais confiez-leur un petit travail comme ça d'une, deux semaines, vous allez voir les résultats, ils vont vous sortir des chiffres. Que ben voilà, on a fait, on a procédé par tel logiciel, par telle méthode, par telle la méthodologie, tout. Et vous brandissez ça, vous mettez ça sur la table avec tout et vous faites... Vous mobilisez des partenaires autour. Vous pensez que quand vous faites des sujets comme ça, vous parlez des choses comme ça, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. C'est plus important que de s'asseoir tout d'une table pour dire « Oh, il faut reprendre ». Tout le monde sait qu'il faut reprendre. Tout le monde sait que les gens ne se sont pas fait recenser. Tout le monde le sait. Oui, mais ça, c'est le discours. Bon, maintenant, concrètement, en termes scientifiques, non, c'est pour ça qu'il faut être stratégique. Il faut réfléchir. Parce que c'est trop facile de s'asseoir tout d'une table pour dire reprenons. On est là, mais attends, en termes de statistiques, en termes de chiffres, en termes de stratégie, qu'est-ce que ça donne? La politique, ce n'est pas dans la bouche. Il faut aussi faire développer une stratégie.
Mais en termes de chiffres, il est midi, souffrez qu'on s'arrête là et je me vois obligé de reprendre encore cette pensée du jour partagée hier qui dit, hein, c'est signé de Guitry, hein, qui dit que la raison et la logique ne peuvent malheureusement rien contre l'entêtement et la sottise. Fin de la première partie, nous allons à la pause et nous rebondissons avec vous.
93.5 Canal FM.
Eh bien, c'est parti. Vous avez été auditeur jusqu'à cet instant. Vous devenez co-animateur par les deux canaux, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75. Premier confrère co-animateur déjà en ligne.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Bonjour, Sylvain.
Oui. Si, par exemple, au FILIS, au CPC, c'est ce qu'ils ont fait sortir, ça prouve que ces messieurs sont partis encore pour boire de lait et non de compter les blés. Parce que c'est ces mêmes partis qui sont montés au créneau pour dire à la CENI de revenir dans la zone numéro 1. Mais si on nous sort un quelconque communiqué que c'est le train en marche, on ne revient pas, ça veut dire qu'ils sont partis boire de lait.
Merci, c'est votre appréciation.
Ah mais oui.
Oui. Merci Sylvain Agbayi. Le Allô? Deuxième. Oui, bonjour.
Bonjour monsieur Gado.
Ah monsieur Gado.
Oui, je voulais parler à propos de l'inondation là.
Oui.
Je ne suis pas sous l'eau, ça. Mais en voyant les vidéos, ça fait pitié. Vous savez, nous devons être derrière le chef de l'État. Il doit conduire ce pays comme la prière des catholiques. C'est-à-dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le Père. La justice. Et le gouvernement, il doit être partout. Au point de ce pays, il doit plus être détourné. Parce qu'il est temps de construire ce pays nous-mêmes. Franchement, j'étais chez un ami, maire avocat. Il me disait, mon ami Gadou, si c'est ce pays-là, nous devons le construire nous-mêmes. Il a raison. Au même moment, les gens détournent. Regarde tous ceux qui sont dans l'eau. Où est-ce que le chef d'État va tirer l'argent pour faire tout ça là? Il a vu le même avocat. Si jamais on détruit encore de l'argent dans ce pays, nous allons nous surveiller le mouvement de près. Je lance un appel à MP Fada de mettre tout en place pour qu'on puisse régler tout ça là. Merci, bonne journée.
Merci. C'est vrai que nous avons une certaine impression d'impunité. Ceux qui sont accusés de détourner les ressources de l'État, rien n'est fait pour les convoquer en justice, qui s'explique. Voilà, M. Garo qui vient de s'exprimer. Le suivant, bonjour.
Georges, bonjour.
Georges, l'ami.
Au début de son mandat, le président sortait pour aller sur le terrain et vérifier les infrastructures. Il ne le fait plus. Pour pouvoir avancer dans la vie, hein, vous savez, il faut jeter un regard critique sur soi-même, sans complaisance. Nous devons avoir le courage de dire que nos infrastructures, les routes, c'est mal construit. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Les bassins, il n'y a pas de ils ne se communiquent pas. Ils ne se communiquent pas. Ils sont suspendus en l'air. Donc, arrêtons de jeter la faute au réchauffement climatique. C'est un fait réel. Mais ce n'est pas le réchauffement climatique qui va trouver la solution. Cela voudra dire que il va falloir repenser notre façon de construire même. Il va falloir éduquer les gens, ceux qui jettent tout dans les caniveaux. Il faut changer les mentalités. Secondo, est-ce que le gouvernement a révélé que le recensement ne s'est pas bien fait? Est-ce qu'ils ont sorti une statistique en nous disant que c'est ce genre de personnes qui n'ont pas été enregistrées? Ils ne l'ont pas fait. Et je vous jure que si un organisme, entité indépendant le fait, ils vont rejeter ça. Mais nous ne voyons pas la face. Si on veut que ce pays avance, disons les choses telles qu'elles sont. Et ça, tu viens de le dire. Les gens détournent de l'argent dans ce pays. Nous avons les ressources, hein. Tous les pays sont riches. Sinon, Dieu est stupide. Il suffit de gérer de façon rationnelle ce qui rentre et ce qui sort. Et là, au Togo, on est dans le flou total. On est dans le flou total. Il faut repenser les choses. Ceux qui détournent, ce n'est pas le président qui est derrière eux. Mais le président doit savoir que lui, s'il est sur le terrain, les gens doivent avoir peur de ce qu'ils font et ils vont produire un bon travail. Bonne journée à vous tous.
Merci. Bon appétit, Georges. Quand vous allez passer à table, s'il y a bonjour. De place. Oui, bonjour.
Oui, lorsqu'on trouvera à manger.
Ah non, vous trouverez à manger, Kwami.
Ok. Par rapport à la pluie d'hier, c'est parce que on a vidé la canalisation de Adido Gomitouane, que ça n'a pas débordé, puisque la machine même n'est pas encore mise en place. Donc c'est parce que Boumaf a tout fait pour vider qu'on n'est pas inondé. Si on pouvait en faire autant pour les autres rétentions, ça nous aiderait beaucoup. Parce que hier, ce que j'ai vu, c'était pas normal. Moi aussi, je tiens à féliciter le corps habillé et nos frères qui nous ont aidés à passer dans cette pluie-là. J'aimerais interpeller sur ce l'ordre des ingénieurs du Togo de mettre en exergue leur intelligence pour qu'on ne se retrouve pas comme dans la jungle où on ne sait qu'est-ce qui se passe exactement. C'est comme si au Togo, il n'y a pas d'ingénieurs.
Mais à ce niveau-là, Kwami, les ingénieurs ne peuvent pas s'inviter dans ces chantiers. Il faut que le gouvernement ou quelqu'un leur fasse appel.
Personne aussi ne les empêche de venir chez vous et mettre leur intelligence à votre portée pour dire voilà ce qui a été fait à Dido Gomé. Voilà, comme ça devait être fait. Personne ne va les égorger pour ça. Parce que ce que j'ai vu hier là, à Kitang Bossier jusqu'à Hankopé. Je ne sais pas si vous-même vous êtes sorti pour rentrer dans l'eau, pour constater les faits. C'est comme on n'a pas d'ingénieur au Togo. C'est pour ça que je les interpelle. Ils ont fréquenté. C'est vrai que je n'ai pas payé décollage pour eux, mais un retour au patriotisme, il faudrait qu'ils nous le fassent.
Merci.
J'aimerais terminer avec ceci. La dernière fois, on a discuté sur la CENI. Et je disais que rien n'empêchait une organisation indépendante de le faire. Mais quand les discours du conseiller, le président de la République, sur Pacoum, disaient qu'on ne va pas reprendre, ça nous donne argument à nous qui disons que les gens étaient allés à l'Assemblée nationale être nommés. On se rappelle des résultats 2020, on a dit 80% des Togolais ont voté pour le chef de l'État. C'est maintenant en train de faire un nouveau recensement où ces 80 personnes-là ont besoin de leur carte d'électeur. Comment un conseiller du chef de l'État peut dire que ces gens-là n'ont pas besoin de carte d'électeur s'il n'est pas nommé? Vous voyez, les gens sont prêts à aller aux élections. Vous qui dites chaque temps que vous gagnez, vous refusez de remettre les cartes d'électeur à ces gens-là. Ça prouve en suffisance que Tipi a raison, qui appelle chaque temps à la révolution, parce qu'on n'a pas besoin des élections. Il ne faut pas nous pousser à l'extrême retraite.
Non, comme nous n'allons pas nous pousser à l'extrême, la révolution que nous voulons faire, c'est la révolution démocratique, telle que c'est inscrit dans nos textes fondamentaux, dans notre constitution. Et nous pouvons réaliser ce rêve si chacun faisait son travail comme il le faut. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Allô, l'ami?
Allô, bonjour, monsieur Sass.
Bonjour.
C'est Abdoul.
Ah, notre ami Abdoul.
Oui.
Ça fait un bon petit moment.
Oui, vraiment.
Eh bien, nous vous écoutons.
Moi, je vois que c'est inutile d'être opposant au Togouin.
Pourquoi?
Parce que les opposants, ils ne peuvent rien faire devant ce régime. Ce régime a plusieurs stratégies. Ils savent que ils ne pourront pas recenser les gens, puisque la majorité des électeurs, des opposants, c'est au sud, la zone 1. Donc, ils ne vont jamais accepter. Eux, ils ont peur de perdre le pouvoir. Ils croient que quand ils vont perdre le pouvoir, ils ne seront plus eux-mêmes. Donc, ceux-là, ils sont en train de perdre leur temps seulement, si je veux le dire comme ça. Parce que le régime a juré de ne jamais laisser le pouvoir. Ils ne veulent même pas attendre de l'alternance.
Là, c'est un procès d'intention que vous faites au pouvoir, ça.
Oui, parce que le pouvoir, il a peur de laisser le pouvoir. Donc, l'opposition aussi n'a pas les stratégies, comme votre confrère l'a dit.
Bon, maintenant, on fait quoi pour que...
Au début, ils ne devaient même pas accepter ce recensement-là. Le recensement qu'ils ont fait avant pour la population, ça pouvait servir aussi à distribuer les cartes.
Le recensement général.
18 ans.
Oui, oui, sauf, Abdoul, sauf que dans le recensement général, il y avait aussi bien les citoyens que les étrangers vivant au Togo.
Oui, on va les supprimer. On sait, on connaît les étrangers, on connaît les autochtones. On va présenter les...
Mais sur quelle base? Sur quelle base on saura que celui-ci est national, celui-là est étranger?
Avec les certificats de naissance, ou bien... Et des nationalités, on peut avoir tous les Togolais qui ont 18
mais
ans.
Mais tous les Togolais n'ont pas justement le certificat de nationalité, même pas d'acte de naissance.
C'est pourquoi ils font tout ça là. C'est pour ne pas perdre le pouvoir. Ils ont tous les moyens. Moi, je les conseille. C'est difficile. Ils n'ont qu'à aller chercher d'autres stratégies. Mais les élections au Togo là, ils nous trompent. Parce que quand ils sont prêts pour aller aux élections, ils savent qu'ils vont gagner les élections. C'est sur moi qui vous appelle aux élections.
Ouais. Merci Abdoul. Hein, mais ne versons pas dans le pessimisme. Même si la situation est dure, nous avons tous les relents pour trouver les solutions de sortie dans la Constitution, dans le code électoral, dans notre vivre ensemble. Le suivant, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Oh.
Allô?
Ah oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui, maintenant c'est bon.
Ah, ok. Avec la pluie d'hier là, moi, je vois que ce n'est pas affaire de sachet ou de rien, non. Nos carnivores ou les égouts sont trop petits.
Trop petits.
Sinon, si vous allez dans certains pays comme Accra, Berenima ou autre, là, vous voyez des grands carnivores. Hein? L'eau ne peut jamais s'arrêter, l'eau va directement dans la mer.
Oui, mais Accra aussi connaît des phénomènes d'inondation avec ces grands caniveaux, comme vous le dites.
Ah oui, connaissez ce problème. Mais actuellement, là, c'est résolu. Mais je ne sais pas pour les nouveaux quartiers. Ce que moi-même j'ai vécu, moi je parle de ça. Même au Bénin, certains caniveaux, vous le voyez, c'est vraiment large, et l'eau va directement dans la mer. Ce n'est pas affaire de sachets ou de...
Mais papa, gardons-nous de certaines comparaisons.
Je conseille les nos autochtones de ne pas jeter les sachets ou les déchets dans les carnivaux. Hein. En secondo,
oui.
Pour l'enrôlement de, voilà, des citoyens, oui. Même tout le monde sait que ce travail est inachevé. Puisque le nouveau conseil des ministres aussi a souligné ça.
Oui.
Donc pourquoi ils ont refusé de reprendre? Parce qu'ils ont peur que tout le monde s'enrôle.
C'est ce que nous demandons aussi.
Pardon?
C'est ce que nous nous demandons aussi. Est-ce que le président de la CENI, lui, méconnaît ce qui a été reconnu par le gouvernement, même à conseil des ministres?
Voilà.
Monsieur Dago Yabré, est-ce que lui, il est plus intelligent que le gouvernement? Ou bien il méconnaît ce que le gouvernement a reconnu? Ce monsieur, nous souhaiterions vivement l'avoir un jour en face de nous ici à la presse. Monsieur Dago Yabré. Monsieur, merci beaucoup, Papa Sordiné. Nous allons prendre le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Charles.
Oui, c'est monsieur?
Oui, monsieur Coco, depuis Adidogon.
Oui, nous écoutons.
Monsieur Charles, vous savez,
Oui.
Donc, il faudrait que nos autorités se ressaisissent un petit peu. Monseigneur Bariga l'a dit dans une des chansons, que chacun fasse sa part. Est-ce que tout le monde veut vraiment le développement de ce pays? Si oui, il faudrait que chacun fasse sa part pour que le Togo aille de mieux sur tous les plans. Nous sommes vraiment en retard, M. Sass. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous aussi, à Sylvain, à Gado, à Georges, à Komi, à Abdoul, à Papa Sordiné, à Kokou, à tous ceux qui nous ont appelés et enrichis au Club La Presse depuis lundi. Elom Kossi, Teko Mangloire et Jean Houlot, vous avez écouté les auditeurs.
Bon, je vais dire un mot par rapport à la réaction de M. Georges sur deux points. Premier point, quand on parle de réchauffement climatique, vous savez, quand on parle de Lomé, Lomé n'est pas la capitale la plus sale d'Afrique. Hein. Je ne sais pas si les gens, vous êtes une fois allé à Conakry, Bamako, Freetown, Bissau, mais vous tombez sur la tête. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer le degré d'insalubrité dans une capitale. Lomé n'est pas la capitale la plus sale. Mais on ne peut pas prévoir la quantité de pluie qui peut tomber dans un pays. Vous pouvez faire le plus grand caniveau du monde. Mais quand la pluie, on dit que ça, il pleut de 6 heures à 20 heures, vous ne pouvez pas prévoir la quantité de pluie. Et donc, quand on parle de réchauffement climatique, ce n'est pas un sujet banal. Laissez cette histoire de changement de mentalité. Je suis désolé. On a parlé tout à l'heure de la gestion des déchets. C'est un problème réel. On doit savoir dans quel dépôtoir on va jeter nos ordures. Ça, c'est un problème réel. Mais le réchauffement climatique, ce n'est pas un problème mineur. C'est un problème majeur. On ne peut pas faire comme si, on n'a qu'à laisser ça de côté. Non, je suis désolé, mais qui peut prévoir la quantité de pluie dans un pays? Personne.
Ensuite?
Et ensuite, deuxième chose, sur les statistiques dont il a parlé. Oui. Par rapport il dit que le gouvernement va rejeter. C'est pas parce que vous envoyez une lettre à un chef d'entreprise qui ne vous répond jamais que vous cessez d'envoyer la lettre. Parce qu'un jour, on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait. Vous comprenez? S'il y a une mauvaise gestion quelque part, ou bien s'il y a un problème qui se pose, quand vous envoyez des courriers pour dire je ne suis pas d'accord, c'est pas parce qu'on ne vous répond pas que vous allez cesser d'envoyer des courriers. Vous vous plaignez quand même et un jour vous sortez les décharges, vous dites, quand ça s'est posé, j'ai fait ma part, voici les courriers. Et tout le monde vous respecte. Mais attendez, on dit qu'on doit reprendre le recensement. Tout le temps on vient ici, on dit reprenons. Tout le temps, même le gouvernement, vous avez dit tout à l'heure que le président de la CENI, on dit reprenons. Mais quelle étude? On ne peut pas dire que parce que le gouvernement va rejeter les chiffres, qu'un parti ou une organisation de la société ne peut pas faire une étude pour savoir le nombre de Togolais qui n'ont pas eu la carte. Et puis pour ça, est-ce que c'est difficile? Il faut juste recruter des jeunes, des statisticiens qui vont faire le tour des quartiers. Mais la carte d'électeur, ce n'est pas un truc qu'on garde à la maison, bien je ne sais pas, c'est pas comment je peux dire ça. Ce n'est pas un outil biologique. On ne va pas faire une prise de sang pour savoir si vous avez carte d'électeur. Ça se voit, non? Mais donc, allez demander aux gens si vous avez carte d'électeur, ils vont vous dire oui, voici ma carte. Non, je n'ai pas, mais... Et puis faites les croisements. Comment est-ce qu'on fait les analyses de données pour les mémoires?
Merci.
C'est alors, ce qu'on fait toujours. Et donc, carton. Écoutez.
Nous,
on n'a pas la science infuse. Mais il ne faut pas que les gens donnent l'impression au bout du fil comme s'ils sont plus intelligents que nous. Non. Sincèrement, je suis désolé. Parce que nous avons été à l'école aussi. Et donc, soyons respectueux les uns les autres pour que le débat se passe bien. Merci.
Merci. Et l'homme, je te rappelle à toutes fins utiles la pensée du jour que nous avons partagée en début d'émission. Tu te rappelles?
Très bien.
Eh bien, ça dit quoi? Hein? la pensée du jour partagée en début d'émission.
Magloire dit qu'il va nous rappeler cela.
Que chacun de nous est porteur de points de vue, mais pas d'une vérité absolue. C'est pour dire que sachons quand même relativiser nos points de vue, aussi bien nous au studio que nos co-animateurs. Jean-Houlo Polorini.
J'ai pas grand-chose à dire, juste sur la question des inondations. Je crois que nous l'avons abordé de long en large avec les pistes de solutions et probablement les causes. Je crois que si ceux qui décident essaient de s'orienter sur ces différentes pistes, notamment les déchets, le climat et tout, je crois qu'on pourra trouver une solution d'ici moyen long terme. Parce qu'à court terme, c'est déjà compliqué. Donc je me dis d'ici moyen long terme, on pourra trouver. Maintenant, en ce qui concerne le recensement électoral, je suppose qu'on a voulu nous démontrer que la CENI est véritablement indépendante. Parce que les partis politiques ont parlé, le gouvernement a parlé, mais la CENI a décidé que finalement, c'est bon. C'est-à-dire qu'on veut nous dire que la CENI est indépendante, elle n'a pas à suivre les desiderata des différents partis politiques, mais c'est elle qui a exécuté le travail, même si le gouvernement lui-même a trouvé que il y a eu des dysfonctionnements. La CENI a assumé de dire que tout est bien fait et puis elle ne retourne plus en arrière. On le prend comme acte et moi je me dis que peut-être dans les semaines, les mois à venir, elle entendra raison. Nous n'avons pas la science infuse pour savoir. C'est vrai que tous nous avons affirmé, Oubi-Orbi, que le recensement s'est mal passé dans la zone 1. Mais nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'imposer quoi que ce soit. Les institutions sont là, qu'elles fassent leur travail. Et nous espérons véritablement que cette situation actuellement qui prévaut ne va pas être un foyer de tension pour le futur. Car l'objectif que nous tous nous avons, c'est de préserver la paix.
Merci. Teko ?
Non, je crois que c'est parlant des inondations, bien sûr. C'est Michel qui le dit souvent que quand votre mouton est perdu, et que vous le cherchez en vain, par moment, il faut jeter un coup d'œil dans le poulailler pour voir. C'est pour dire que nous parlons des pistes de solutions et l'auditeur commis a évoqué l'aspect des ingénieurs. Je crois que l'homme aussi avait fait cas et c'est pertinent. Puisque nous cherchons des solutions, la famille des ingénieurs togolais s'est beaucoup plus structurée avec à la tête monsieur Noupoku Damipi, l'ancien ministre. Je crois que c'est une invite qui est aussi adressée à cette famille corporatiste de s'approprier ce débat, essayer de jeter un regard analytique sur les infrastructures que nous avons pour essayer de ressortir, si besoin il y a, les défaillances pour leur apporter une piste de solution.
Merci. Pour terminer.
Pour terminer, un carton vert. En début d'émission, on avait évoqué le cas d'un Togolais actuellement de l'autre côté de Abidjan. En fin d'émission, je m'en vais adresser mon carton vert, carton d'encouragement à un autre Togolais. Il s'appelle Révérend Père Kokouma Wena Ambroise Atakpa, qui est Togolais originaire d'Atapame. Il est docteur en théologie. Il enseigne dans plusieurs universités théologiques à Rome. Il vient d'être nommé par le Saint-Père François, membre de la commission des nouveaux martyrs témoins de la foi. C'est une commission qui a pour rôle de recenser à travers le monde tous les chrétiens fidèles catholiques qui ont perdu la vie pour que l'Église existe. Notre compatriote a l'honneur de figurer parmi cette commission qui aura cette lourde charge donc de recenser tous ces martyrs-là. Donc, nous lui adressons notre carton vert et carton vert également à l'Église catholique romaine.
Merci à vous tous pour le recensement. Nous parlons beaucoup de la CENI et nous citons souvent le président Dago Yabré, mais nous voudrions, pour l'histoire, rappeler que la CENI est composée de 17 membres et ce qu'ils sont en train de faire, ou bien ce qu'ils refusent de faire, demain devant l'histoire, ils emporteront tous collégialement la responsabilité. Eh bien, les membres de la CENI, ils sont, pour la majorité parlementaire, Chao Patoum Hekou, Christophe, Kegbero Latifou Seigneur, Mensa Atemne Agnélé Christine, Kolani Larja, Assi Atissim, Kapou René, Osei Yaovi. Pour l'opposition parlementaire, ils sont Omao Achou Fiagadji, il est d'ailleurs le vice-président, Lokadi Komi et Sola Binam, il vient de l'UFC. Mensah Atto Menaou Nikabou du NET, Azonjani Yewanou Kossi du PDP. Pour l'opposition extra-parlementaire, Tchala Biaou du PSR, Pessinaba Yamba Wimpang de l'ADI, Teko Foli Jean-Jacques de l'ANC, Société civile Dosekli Mensah de l'association Agir pour l'humanité, Yabré Dago, l'ONG Nouvelle Élite, il est le président de la CENI, et pour l'administration, M. Potopere Tozim. Alors, vous avez écouté des noms, des gens qui ont l'expérience et qui ont fait leur preuve de par le passé à la CENI. Alors, on a du mal à comprendre comment de telles personnalités peuvent se retrouver à la CENI et qu'on en soit à ce débat-là encore aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour la semaine. Nous nous souhaitons bon week-end. Et si Dieu le veut, ce dont nous ne doutons pas, nous nous retrouvons le lundi prochain à 11h.
Et l'émission Club de la Presse vous a été proposée par Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie. GTA Assurance Vie, en toute confiance.
Canal FM.